Programme 7.2. Bonjour et félicitations. Nous voilà au dernier cours de français. Quelques-uns d'entre vous vont participer à l'épreuve du baccalauréat et c'est pourquoi c'est le moment des révisions. Nous commençons par le thème du travail. Il y a beaucoup de métiers, de professions. On peut travailler au bureau, à l'usine et même à la maison. Voici une dame française qui travaille dans la maison de ses clients.
Quelle est la profession que vous faites, madame?
Alors, la profession, elle est nommée comme auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie, cela implique que je suis un petit peu à la merci de tout le monde. Je suis chargée de m'occuper des problèmes, de venir en aide. Alors, aux personnes âgées, mais ce peut être des personnes âgées, mais aussi des personnes un peu plus jeunes, des personnes handicapées, des enfants. C'est un petit peu une assistante sociale, mais en plus des conseils qui met aussi en pratique. C'est-à-dire que mon rôle, actuellement, j'ai plusieurs personnes âgées dont je m'occupe. Ces personnes sont, quelques-unes sont valides. Le problème, c'est l'assistance au niveau des papiers à remplir. Faut savoir qu'en France, l'administration exige beaucoup, beaucoup de formulaires à remplir. Et même lorsque nous sommes âgés, lorsque nous avons 80 ans, 90 ans, il faut toujours fournir des papiers. Donc, ces personnes, même si elles sont valides, si elles ont tout leur esprit, c'est encore difficile de remplir ces papiers. Donc, je suis là pour les aider. Les aider s'il y a un problème, un litige auprès des administrations. C'est moi qui me charge de ces problèmes. Quelques-unes où j'ai procuration sur les comptes. Donc, quand il faut payer pour telle chose, je suis un petit peu une tutrice aussi. Lorsqu'elles ont besoin d'aller chez le médecin, lorsqu'elles ont besoin de commission, ben je suis là. Et puis, actuellement, là, il y a une personne qui a 93 ans, qui a toute sa lucidité, mais le problème, c'est la faiblesse de l'âge. Et il y a très peu de temps, elle est tombée dans sa salle de bain. Donc, les proches, les enfants veulent qu'elle reste chez elle encore, mais pour ça, il faut un assistanat. L'assistanat, donc, moi, je fais partie de ces gens qui sont là pour la soutenir, pour l'aider, et puis où je fais quelques nuits pour veiller à ce que si elle a besoin de se lever la nuit, elle ne tombe pas. Donc, mon travail, c'est d'être auprès des gens, d'essayer de résoudre leurs problèmes, de les aider moralement, parce que aussi ces personnes ont besoin aussi d'une compagnie pour de rompre la solitude. Alors, je suis un petit peu tout. Je suis l'infirmière, je suis la commissionnaire, je suis la banquière, je suis beaucoup de choses, et l'ami aussi.
Les mêmes problèmes existent en Finlande aussi. Les gens âgés et handicapés sont plus nombreux à avoir besoin d'aide car l'espérance de vie a augmenté et la capacité des services sociaux n'est pas suffisante en ce moment-ci. Cette situation a créé, pour de nouveaux entrepreneurs, l'occasion d'offrir leurs services à ces personnes. Nous avons vu la naissance de différentes maisons et appartements de retraite.
Est-ce que auxiliaire de vie a été votre seule profession?
Non, pas du tout. J'ai fait beaucoup de choses. Après avoir fait mes études, j'ai été éducatrice d'internat, c'est-à-dire que surveillante dans un collège. Et puis après, j'ai travaillé dans une agence immobilière pendant 3 ans et demi. Ensuite, j'ai travaillé dans la publicité. Et là, c'est là où a été le plus grand rôle de ma vie, puisque pendant 17 ans, j'étais dans la publicité, publiciste, puisque j'ai créé un journal, que j'étais chef d'entreprise où j'ai eu des employés.
Est-ce que vous avez trouvé toutes les professions que cette dame a eues? Auxiliaire de vie, éducatrice d'internat ou surveillante, agente immobilière, publiciste ou chef d'entreprise? Elle a dû changer de métier, ce qui est vrai pour beaucoup de personnes à l'heure actuelle.
D'autre part, dans la vie de l'entreprise, il est intéressant de savoir qu'en France, on se serre la main le matin quand on rencontre ses collègues. Et l'on se vouvoie, même si on est collègue depuis 20 ans. Et le patron a toujours raison, comme la patronne aussi. Un des devoirs du patron, c'est d'engager du personnel. Pour avoir un emploi, le demandeur doit rédiger souvent un curriculum vitae où il parle de lui-même et de ses expériences de travail. Écoutez bien ce qu'il faut mettre dans un curriculum vitae.
Parce que vous avez été chef d'entreprise, vous avez embauché du personnel.
Oui, j'ai embauché du personnel. Et bien sûr, pour embaucher du personnel, ce n'est pas très évident. Donc, j'ai passé des annonces. Je me suis rendue aussi à l'Agence nationale pour l'emploi. C'est un institut qui recrute aussi des personnes qui sont à la recherche de l'emploi. Et pour ces personnes, bon, ben, la meilleure façon de les sélectionner, eh bien, il me fallait quand même un CV. CV, c'est-à-dire, ce sont les initiales du curriculum vitae. C'est un mot bon latin et qui veut dire, qui signifie un petit peu que l'on rédige sur sa personnalité, sur sa vie. Alors, le curriculum vitae, hein, je pense que vous voulez peut-être savoir comment il se rédige. Alors, il se rédige, nous devons indiquer notre nom, notre prénom, notre date de naissance, notre lieu de naissance, notre situation familiale, savoir célibataire, marié, nous pouvons vivre aussi maritalement, hein, ou en union libre, maritalement ou union libre, c'est exactement la même chose, savoir si nous avons des enfants, parce que pour un chef d'entreprise, c'est quand même très important, suivant l'emploi qu'il veut donner à cette personne. Et à savoir que par ce curriculum vitae, nous savons la disponibilité un petit peu des gens. Alors, lorsque nous avons donné un petit peu tous ces renseignements personnels, eh bien, nous indiquons les différents emplois que nous avons faits à la sorte depuis nos études. Nous indiquons les études que nous avons faites, hein, les différents diplômes que nous avons eus, et ensuite les différents emplois que nous avons effectués en indiquant l'entreprise, et la fonction que nous avons eue, et en même temps les dates et les périodes de travail, puisque cela aussi permet au chef d'entreprise de situer la valeur de l'employé qui recherche un emploi. Aussi, dans un curriculum vitae, nous précisons aussi les motivations, pourquoi nous recherchons tel emploi. Et en même temps, il est toujours préférable d'indiquer si nous avons des activités sportives, culturelles, parce que c'est une ouverture d'esprit et qui peut permettre aussi aux chefs d'entreprise de vous sélectionner.
Maintenant, rédigez votre propre CV. N'oubliez pas d'y joindre une lettre de motivation.
Qu'est-ce qu'une lettre de motivation ?
Une lettre de motivation, c'est une lettre qui motivée, qui veut dire pourquoi nous désirons cet emploi. Donc, il faut prouver, il faut montrer aux chefs d'entreprise que si nous demandons, si nous écrivons pour avoir cet emploi, c'est parce que nous avons envie d'avoir cet emploi. Et motivation, donc, il y a des termes dans la lettre qui doivent indiquer pourquoi nous désirons, soit par l'entreprise que nous connaissons sérieuse, par le produit qui le vend, soit par sa situation géographique. Et puis aussi parce que par le salaire aussi. Donc ce sont toutes des motivations qui fait que l'employé a envie de s'inscrire, a envie de demander cet emploi. Donc il doit le préciser dans sa lettre.
La lettre de motivation explique pourquoi on cherche tel ou tel emploi. C'est donc très important.
Après la vie active, on prend sa retraite. Pour quelques-uns, cela peut signifier la solitude, surtout parmi les personnes les plus âgées.
Donc la solitude, c'est un grand problème en France aussi.
Oui, la solitude, même si les personnes âgées ont leurs enfants, il y a toujours ce problème de solitude. À savoir que les personnes dont je m'occupe, ce sont des personnes qui ont été en activité, qui ont eu des rôles très importants dans leur vie active, qui ont été directeurs d'école, qui ont été commissaires de police, qui ont été chefs d'entreprise, et qui acceptent le fait d'être à la retraite, mais qui acceptent mal cette inactivité. Alors même si les enfants sont là, mais je pense que les étrangers sont toujours beaucoup plus proches, parce qu'on va plus se confier des problèmes à quelqu'un d'étranger qu'à la famille, même si la famille est très proche. Et la solitude, elle existe. Elle existe, elle est pesante, et pour tout le monde.
Quelle est votre opinion sur cette question? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette dame? Et vous, personnellement, est-ce que vous vous confiez à un étranger plutôt qu'à quelqu'un qui est très proche de vous? D'un autre côté, beaucoup de Français ont trouvé un moyen d'éviter la solitude en participant aux activités d'un club ou d'une association. La dame que vous allez entendre appartient à une association assez surprenante. Laquelle? Elle parle d'autres associations aussi et nomme quelques fonctions liées aux activités des associations. Lesquelles?
On dit que chaque Français appartient au moins à une association. Quelles sont vos associations?
Ah oui, c'est vrai que je crois que les Français, en général, on dit qu'ils ont un grand cœur, et puis nous faisons beaucoup de bénévolat. Alors je m'occupe d'une association principalement, dont je suis trésorière. Alors cette association, c'est l'association Crématiste. Bon, c'est vrai qu'au départ, ça surprend beaucoup de gens parce que cette association a rapport à la mort, mais c'est un mode, c'est une façon de continuer la vie. Et la crémation, c'est vouloir se faire crématiser, entre guillemets, brûler, réduire en cendres à sa mort. Alors, pour certaines personnes, ils vont dire « Oh, c'est triste ». Non, c'est pas du tout triste, puisque chacun a, nous avons un but après la vie, c'est la mort. Bon, et nous avons ce moyen-là. Donc, moi, je suis trésorière de cette association où nous avons près de 800 adhérents et qui est en progression. Mais le fait de faire partie d'une association engendre toujours que nous fassions partie d'autres associations, parce que dans notre association, nous avons des membres, comme l'exemple, le secrétaire adjoint de mon association est président d'une autre association qui, alors elle, est peut-être beaucoup plus gaie, puisque c'est Belle Rive Évasion, où nous organisons des voyages et des loisirs.
Chaque association à un président ou une présidente, un ou une secrétaire et un trésorier ou une trésorière. Dans le conseil d'administration, il y a aussi un vice-président et des membres adjoints. Et vous, est-ce que vous appartenez à une association? Laquelle et pourquoi? Quel rôle y avez-vous? Est-ce que vous assistez aux réunions ou payez-vous seulement la cotisation comme la plupart des membres? Dans un autre domaine, les Français sont très actifs dans les clubs de jeux ou de concours. La dame interviewée mentionne le jeu de Scrabble, que l'on joue d'une manière différente dans les clubs, les tournois ou à la maison.
le jeu de Scrabble est connu dans le monde entier, à savoir que lorsque nous faisons partie d'un club, moi personnellement je suis licenciée, c'est-à-dire que je fais des tournois, je participe à des championnats, et ce jeu-là n'est pas du tout un jeu comme nous jouons en famille. Le jeu que nous appliquons en club ou en tournoi s'appelle le duplicat, à savoir que chaque joueur part sur des mêmes bases. Nous avons un arbitre qui fait le tirage des lettres. Bon, le jeu de Scrabble, à la base, il est pour tout le monde pareil, c'est-à-dire que nous avons un même tableau, nous avons le même nombre de lettres, mais lorsque nous jouons en famille, chacun tire ses 7 lettres. Donc, il y a une part de chance. Alors que lorsque nous sommes en club ou en tournoi, c'est une personne neutre, c'est un arbitre qui fait le tirage des lettres. Donc, ces tirages, ce sont 7 lettres qui sont les mêmes pour tous les joueurs. Nous jouons en un temps donné, c'est-à-dire que en temps normal, 3 minutes, 2 minutes 30 pour réfléchir et 30 secondes pour écrire. Il y a aussi en semi-rapide, c'est-à-dire 2 minutes pour réfléchir, 30 secondes pour écrire, et en blitz, 1 minute 30 pour réfléchir et 30 secondes pour écrire. Mais nous partons tous sur la même base de lettres. Lorsque nous avons trouvé un mot, nous essayons à ce que ce mot soit rapporte le plus de points possible. Le plus de points, ce peut être à un point. Et notre référence, c'est l'ordinateur, puisque c'est lui qui va nous donner le top, le maximum que nous aurions pu jouer.
Nous avons parlé du travail et des loisirs. Il y a une fête qui combine les deux, c'est le 1er mai, qui est la fête du travail. Quelle vieille tradition y a-t-il en France le 1er mai ?
Comment est-ce qu'on passe le 1er mai en France ?
Alors, le 1er mai, c'est déjà la fête du travail. C'est-à-dire que ce jour-là, nous ne travaillons pas. Si nous travaillons, l'employeur ne peut pas exiger que nous travaillions. Si nous travaillons, c'est parce que vraiment nous l'acceptons, mais il se doit de nous payer le double de salaire. Alors, la fête du travail, chez nous, elle se singularise par déjà le fait d'offrir le muguet. Le muguet, ce sont des fleurs que nous trouvons dans les bois. Et beaucoup de personnes, la veille ou l'avant-veille, nous allons ramasser le muguet. Et le 1er mai, c'est le seul jour où nous avons le droit de vendre le muguet dans les rues, sans être pénalisé, sans avoir à payer d'impôts, sans être accosté par la police. C'est vraiment ce seul jour. Les enfants ont le droit, des enfants de 5-6 ans ont le droit de vendre du muguet comme des personnes de 30 ans, des personnes de 50 ans, des personnes de 80 ans. Alors ce muguet est symbolique parce que, je ne sais pas si vous connaissez les fleurs, ça représente des petites clochettes blanches. Et ces petites clochettes blanches représentent le bonheur. Lorsque nous offrons ce muguet aux personnes, c'est parce que nous avons envie que ces personnes soient heureuses. Donc ce jour-là, c'est marqué par, la fête du travail où nous ne travaillons pas, mais aussi, principalement, par offrir le muguet aux personnes que l'on aime.
Comment est-ce que vous passez le 1er mai et est-ce que vous avez quelques traditions ? En Finlande, beaucoup de personnes vont déjeuner en famille dans un restaurant et quelques étudiants vont pique-niquer sur l'herbe s'il fait beau. À propos, vous vous rappelez toujours comment on commande son repas au restaurant ? Imaginons que vous entriez dans un restaurant français. Répondez aux questions que l'on vous pose et n'oubliez pas la politesse.
Bonjour, messieurs, dames. Vous êtes combien ? Très bien. Voilà une bonne table près de la fenêtre. Et voici la carte. Mais nous avons aussi deux menus à prix fixe. Un à 149 francs et un autre à 167 francs. Je reviens dans un instant. Vous avez choisi ? Ah, vous préférez le menu à prix fixe. Lequel ? Dans ce menu, vous pouvez choisir comme entrée 6 huîtres fines de clair, du foie gras, une terrine de volaille ou bien une soupe du pêcheur. Comme plat principal, nous avons un pavé de saumon, du lapin rôti et du magret de canard. Qu'est-ce que vous prenez ? Le vin est compris. Est-ce que vous préférez du vin blanc ou du vin rouge ? Et comme dessert, crème brûlée, tarte maison ou sorbet aux fraises ?
Après avoir bien mangé, vous voulez payer. Qu'est-ce que vous dites ?
En plus du 1er mai, la Saint-Jean est une fête importante pour les Finlandais.
Est-ce qu'on fête la Saint-Jean en France ?
Oui, la Saint-Jean est fêtée. Alors, elle n'est pas fêtée partout, elle est fêtée suivant les communes, suivant les villes, parce que chaque ville a un saint, a une fête patronale. Fête patronale, c'est-à-dire que c'est une fête annuelle et qui est représentée par un saint. Alors, pour certains, c'est la Saint-Nicolas, d'autres la Saint-Michel. Bon, il y a la Saint-Jean. La Saint-Jean, elle est fêtée dans beaucoup de villes. Et elle est manifestée par des feux d'artifice et des feux de la Saint-Jean. Alors, c'est le soir de la Saint-Jean, les gens, les animateurs ou dans les villes organisent des fêtes, des animations, mais toujours représentées par le feu d'artifice ou par des feux follets, par la musique aussi.
Comme en France, en Finlande, on trouve aussi des feux de la Saint-Jean. En plus, les Finlandais veulent absolument aller au sauna et manger des saucisses grillées. Même quelques résidents français en Finlande ont adopté cette coutume.
J'ai été agréablement surprise par ce pays qui, d'office, m'avait été présenté comme assez hostile. J'adore le sauna, et passer une semaine sans sauna est une épreuve de force. J'ai découvert que le sauna était très civilisé et que c'était un moment unique de détente et de relaxation. Bien sûr, la bière, disons, sauniale, n'est pas pour me déplaire et me fait même apprécier cette boisson d'une manière tout à fait nouvelle et agréable. Pour parfaire le tout, la saucisse que les Finlandais appellent « makkara », cuite au-dessus des pierres du sauna, nous donne l'énergie nécessaire pour affronter les roulades dans la neige ou les baignades dans l'eau froide du lac.
Souvent, il fait encore assez frais à la Saint-Jean en Finlande. Mais en tout cas, les Finlandais préfèrent passer cette grande fête dans leur maison d'été. Ni pluie ni orage ne les empêchent de la fêter au bord d'un lac ou de la mer. Heureusement, souvent, il fait clair pendant cette nuit sans nuit. Si le ciel n'est pas couvert, on peut voir le soleil pendant 24 heures en Finlande du Nord. Est-ce que vous avez de bons souvenirs d'une certaine Saint-Jean ? C'était en quelle année ? Quel temps faisait-il ? Où étiez-vous ? En hiver, quand il fait froid, ou en automne, quand il fait du brouillard, il est agréable de se souvenir des jours ensoleillés du printemps et de l'été.
En France, la fête la plus importante en été est la fête nationale, le 14 juillet.
La fête nationale, c'est le 14 juillet. Comment est-ce qu'on fête cette fête en France ?
Alors, la fête du 14 juillet, bien sûr, c'est la prise de la Bastille qui a eu lieu en 1789. Et la prise de la Bastille implique donc la liberté. Et cette fête, donc, le 13 juillet, la veille, il y a des bals. Nous dansons dans toute la France, donc dans les rues, sur les places de la ville, dans des salles des fêtes, s'il pleut, bien sûr. Nous dansons gratuitement. C'est comme ça que un petit peu le 14 juillet est fêté. Et le lendemain, Le jour du 14 juillet, il y a des défilés qui, de la musique, de beaucoup de membres associatifs qui représentent la liberté.
À Paris et dans les autres grandes villes françaises, il y a des défilés militaires. Cet événement attire aussi des touristes. Les rues principales des villes sont décorées de drapeaux et de fleurs tricolores. En Finlande, le 6 décembre, jour de l'indépendance, il n'y a pas de feux d'artifice, on ne danse pas dans les rues comme en France. C'est une fête sérieuse, on allume des bougies en l'honneur de ceux qui ont perdu leur vie pour la patrie. Les étudiants se rendent au cimetière en formant une marche au flambeau. Naturellement, il y a des défilés militaires en Finlande aussi.
Comme le 14 juillet et le 6 décembre sont des jours fériés, beaucoup de gens vont voir leurs amis ou leur famille. Surtout s'ils peuvent faire le pont, c'est-à-dire faire sauter un jour de travail entre deux jours fériés. Pendant vos jours de congé, imaginons que vous êtes à Paris et que vous vouliez vous rendre à Bordeaux. Quel moyen de transport y a-t-il pour y aller ? Téléphonez à une agence de voyage et réservez deux billets d'avion pour Bordeaux.
Agence Soleil, bonjour. Puis-je vous aider ? À quelle date ? À quelle heure ? En classe touriste ou en classe affaires ? Comment voulez-vous payer les billets ? En espèces, par chèque ou par carte de crédit ? Si vous choisissez la carte, donnez-moi le numéro, s'il vous plaît. D'accord. Vos noms et adresses ? Merci. Est-ce que vous viendrez chercher les billets ? Ou est-ce qu'on vous les enverra par la poste ? Très bien. Au revoir et merci.
Si vous préférez le train, allons à la gare et achetons le billet au guichet. Saluez l'employé et achetez un aller-retour pour Lyon.
Bonjour, vous désirez ? Quand voudriez-vous partir ? Oui, à quelle heure ? Vous prenez le train express ou le TGV ? Pour le TGV, il y a un supplément de 25 francs. Et c'est direct et bien sûr plus rapide. Vous avez droit à une réduction ? D'accord. En deuxième ou en première classe ? Ah, vous payez en espèces. Voici votre monnaie. Merci.
Quand vous voyagez, vous voulez certainement envoyer des cartes postales. Vous pouvez acheter des timbres soit à la poste, soit au tabac. Vous entrez dans un bureau de poste et vous voulez acheter quelques timbres pour la Finlande. Maintenant, demandez le prix du timbre pour la Finlande.
Est-ce que la Finlande appartient à l'Union européenne ? Voyons, pour la Finlande, il y a un tarif spécial, bien que vous apparteniez à l'Union. Mais peut-être que cela va changer.
Eh bien, dans ce programme, vous avez fait beaucoup d'exercices oraux et nous espérons que vous avez beaucoup appris. Comme c'est notre dernier programme, nous vous remercions de votre intérêt pour la langue française. Au revoir et bonne continuation.